Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne. Pour ce nouveau numéro de J'ai rendez-vous avec vous, j'ai choisi deux invités au parcours aussi passionnant que diversifié. L'un s'intéresse aux cailloux, à tel point de s'être engagé dans la recherche en géologie. C'est un jeune chercheur au talent et à l'avenir prometteur. L'autre a déjà fait ses preuves dans un domaine où il faut savoir faire preuve de patience et de pédagogie. Oui, mon autre invité est un professeur de technologie à la retraite. Alors pourquoi les avoir invités en même temps avec des profils quelque peu différents au départ? Tout simplement car une passion les réunit, l'accordéon. Cet instrument populaire qui fait danser dans les bals le samedi soir ou le dimanche après-midi. Les tangos, valses, passo-doble, mazurka. Un terrain de prédilection? Bien sûr. Le Morvan notamment. Ce coin de Bourgogne qui continue à faire vivre les traditions. Bonsoir Mario Sossereau.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Bernard Gugère.
Bonsoir Frédéric.
Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue à Radio Shalom Bourgogne. Vous allez bien?
Très bien.
Oui, très bien, merci beaucoup.
Parfait. Et alors, nous allons justement commencer ainsi. Thank you. Nous reviendrons à l'accordéon en seconde partie d'émission, mais penchons-nous d'abord sur le parcours de vie de nos deux invités. Et je vais commencer par le plus jeune d'entre eux, Mario Sosro-Jouvenceau. Mario, vous êtes doctorant en géologie après avoir suivi un cursus scolaire brillant où, m'a-t-on dit, vous excelliez dans toutes les matières. Vous aviez même un goût prononcé pour la littérature. Alors, comment et pourquoi avez-vous choisi la géologie comme sujet de recherche? Quel a été en fait l'élément déclencheur?
Eh bien, avant que ça devienne vraiment un sujet de recherche, on va dire que c'était d'abord un intérêt et puis la volonté de suivre des études en géologie, d'avoir un parcours d'études en géologie. Ça vient un petit peu du hasard, peut-être, je ne sais pas trop. Quand j'étais petit, j'aimais bien les volcans. Je regardais souvent les documentaires sur les volcans, les C'est pas sorcier. Je pense que pas mal de personnes de ma génération qui ont étudié les sciences après ont commencé avec C'est pas sorcier, notamment.
Oui, on les regarde encore, les C'est pas sorcier, d'ailleurs, aujourd'hui.
On les regarde encore. Je crois que maintenant, ça a pris une nouvelle forme, même avec des nouveaux présentateurs. Enfin, ça m'avait, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Puis j'aimais bien la montagne. J'ai toujours fait pas mal de rando avec mes parents. Donc c'est peut-être un petit peu toute cette influence-là qui a fait que c'est une matière que j'appréciais particulièrement au collège puis au lycée. J'ai toujours eu des très bons enseignants aussi de SVT, que je remercie d'ailleurs pour ça. Et donc je me suis orienté vers des études universitaires de géologie après mon bac. Et en fait, je voulais faire de l'enseignement, sauf que pour enseigner les SVT, il fallait faire un parcours de biologie avec un supplément de géologie. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà, fallait faire quand même majoritairement de la biologie, ce que je ne voulais pas faire. Et donc, quand j'ai posé la question, qu'est-ce que je peux enseigner, où est-ce que je peux enseigner en ayant uniquement un parcours de géologue, on m'a dit, c'est faire de l'enseignement recherche à l'université. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. Et au fur et à mesure, en rencontrant des chercheurs à l'université, puisque c'est eux qui nous donnent les cours, j'en ai découvert un dont les thématiques de recherche m'ont plu, m'ont intéressé. Et on a construit ensemble des sujets de recherche sur lesquels je suis en train de travailler.
Et lorsque je disais que vous étiez passionné de littérature, c'est une info, vous me le confirmez?
Alors je vous le confirme, alors une passion, je pense qu'on peut peut-être moins parler de passion que pour d'autres personnes. J'ai toujours beaucoup aimé la littérature, même la philo aussi. Les quelques cours de philo que j'ai pu avoir au lycée m'ont beaucoup plu, parce qu'en fait c'est de la réflexion. Alors oui, la littérature, c'est une forme d'art que j'apprécie beaucoup. Encore une fois, j'ai aussi toujours eu des enseignants qui ont su nous passionner dans ces matières-là. Et la philo, en fait, c'est quelque chose qui est très proche des sciences. Alors maintenant, il faut plus appeler ça comme ça, donc je vais mettre des très gros guillemets, des sciences dures, on va dire, des sciences calculatoires. Des mécaniques de pensée qui sont très 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 similaires, et donc c'est très plaisant de faire de la philosophie.
Vous avez un philosophe préféré, par exemple, quelqu'un que vous aimez bien, dont vous aimez bien la pensée, les écrits?
Je ne saurais pas vous donner de nom en particulier, parce que je n'ai pas pratiqué la philosophie depuis le bac, malheureusement. Enfin, de la pratiquer sérieusement, j'ai envie de dire, en excluant ce qu'on peut qualifier de discussion de comptoir. De vous donner des noms, non, j'en ai pas trop. J'écoutais dans un moment pas mal un philosophe des sciences, qui est aussi un physicien, qui est Étienne Klein, qui a écrit pas mal de bouquins, dont j'en ai lu quelques-uns. Et voilà.
Alors, revenons à notre sujet initial, c'est-à-dire la géologie, Mario. Parlons de la recherche scientifique dans laquelle vous évoluez actuellement. Vous avez déjà une certaine expérience, puisque vous démarrez, si je ne me trompe pas, une seconde année de recherche. Et quel est le parcours à suivre pour devenir, je vais dire en fait, apprenti chercheur?
Oui, c'est une formulation qui pourrait convenir, effectivement. Je suis dans ma deuxième année de thèse. Et alors, la question qui était initialement, comment est-ce qu'on rentre dans la recherche? La voie royale, on va dire, celle qui est la mieux adaptée, en tout cas, à ce parcours, ça reste les études académiques, universitaires, je veux dire. Donc, le parcours licence-master. Et ensuite, en fait, ça va surtout être, je pense, un intérêt qu'il faut faire naître quelque part, une curiosité qu'il faut faire naître quelque part. De mon côté, ça a été la rencontre avec celui qui est... actuellement mon directeur de thèse, mon co-directeur de thèse, puisque j'en ai deux. Mais ça peut venir d'une cette curiosité, elle peut naître à beaucoup d'endroits et tous les parcours sont différents quand je discute avec mes autres collègues thésards et thésardes. En fait, on a tous eu des inspirations différentes au départ qui nous ont poussé à ce parcours-là. Pour certains, beaucoup de hasard, des rencontres. Pour d'autres, c'était ce qu'ils voulaient faire depuis tout petit. Il y a vraiment des inspirations très 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 différentes au départ.
Ça fait longtemps que vous y pensez à la thèse ?
À la thèse, on va dire sérieusement depuis la licence où justement, après avoir parlé avec des enseignants-chercheurs, où ils m'ont dit que pour faire de l'enseignement à l'université, bien, généralement, alors il y a d'autres manières d'enseigner à l'université, bien évidemment, vous en savez quelque chose.
Oui, oui.
Mais voilà, pour avoir vraiment en faire une activité, ce qui est le plus adapté, c'est l'enseignement-recherche. Et donc, c'est en début de licence où j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'est que la recherche. Après, j'y avais déjà été un petit peu, pas introduit, mais... J'en avais déjà entendu parler puisque ma marraine a elle-même une thèse de doctorat en biologie végétale et travaille dans une université à Paris. Et elle se connaît, c'est ma marraine puisqu'elles ont été très amies avec ma mère qui faisait un DEA à Nancy à l'époque, elle aussi en biologie végétale. Et donc voilà, il y a quand même eu un petit parcours de recherche dans la famille et j'en ai entendu parler par ce biais-là.
Oui, oui, pour préciser ce que vous disiez tout à l'heure, je suis enseignant vacataire à l'université Lyon 3, donc à Lyon. Alors, quel sujet de thèse avez-vous choisi, Mario, et pourriez-vous expliquer en quoi cela consiste pour nos auditeurs ?
Alors, mon sujet de thèse, ça concerne des processus donc, qu'on va appeler profonds, avec des guillemets, parce que ce n'est pas une notion qui est très... très bien définie, on va dire, la notion de profondeur. Hein, elle peut avoir plusieurs gammes de profondeur, justement, en fonction de ce qu'on étudie. Ouais, ça va être des processus qui se passent de l'ordre du kilomètre de profondeur, kilomètre à centaines de kilomètres de profondeur. On s'imagine que sous nos pieds, c'est vraiment uniquement de la roche. De la roche bien dure, bien compacte, du caillou, mais en fait il y a aussi plein de ce qu'on appelle des fluides qui circulent à travers. Ils peuvent avoir des natures et des origines très très différentes, hein. Peut-être celui qui vient le plus naturellement à l'esprit, ce sont les magmas, hein, parce qu'on en a l'expression de surface qui sont l'activité magmatique de surface principale qui est le volcanisme.
Est-ce que vous pouvez vulgariser un petit peu tout ça pour nos auditeurs qui s'y connaîtraient peut-être un petit peu moins? Qu'est-ce qu'on appelle le magma, par exemple ?
Alors, le magma, c'est de la roche fondue. Tout okay. Simplement, c'est de la roche qui aura atteint une température qui fait qu'elle passe de l'état solide à de l'état liquide. Donc ça se fait en profondeur. Alors, il y a plusieurs... c'est à plusieurs endroits qu'on peut faire fondre de la roche et dans plusieurs contextes différents. Il faut des contextes un petit peu particuliers, quand même, pour pouvoir faire fondre de la roche. Et ensuite, donc, ce magma, il se forme... très en profondeur, dans des roches qui sont normalement relativement compactes. Et il faut qu'il se trouve un chemin pour remonter bon an mal an jusqu'à la surface et former les volcans qu'on connaît, nous, ici en surface. Alors ça fait un très gros domaine de recherche, hein, qui est encore très actif aujourd'hui, où il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, c'est pas sur les magmas que je travaille, c'est sur de l'eau, en fait. Alors, ce n'est pas du tout les circulations d'eau qu'on connaît en surface quand on va parler d'aquifères, par exemple.
Aquifères, c'est-à-dire ?
Aquifères, c'est toutes les réserves d'eau qu'on va avoir de manière très superficielle. Donc, on va dire... ça dépend des contextes, mais là, c'est des choses qui vont plutôt se passer au-dessus de la centaine de mètres de profondeur, on va dire. Alors, on pourra me contredire là-dessus, mais voilà, pour donner un ordre d'idée très, très général... donc ça va être dans des roches très, très poreuses, donc qui vont avoir beaucoup de vide, ou qui vont être très fracturées, enfin où on va pouvoir stocker de l'eau sans se faire trop de nœuds à l'esprit. On va dire que voilà, l'espace que va occuper cette eau dans la roche, on peut la voir et la visualiser assez simplement. Là, moi, c'est des choses qui se passent donc, dans ces roches qui vont être très compactes, où on ne va pas avoir ce vide apparent qu'on arrive facilement à conceptualiser, à se représenter. Et en fait, tout l'enjeu est de savoir, donc cette eau, elle provient des roches elles-mêmes. En fait, On ne le sait pas trop, mais il y a tout un ensemble de roches qu'on appelle hydratées, c'est-à-dire qu'elles vont contenir de l'eau. Alors, c'est vraiment à l'échelle de la, ce qu'on va appeler la structure cristalline, vraiment. C'est-à-dire que si vous prenez ces roches dans vos mains, vous n'allez pas avoir les mains mouillées. Hein. Ce n'est pas de, de l'eau de surface, de l'eau liquide comme on l'entend, c'est de l'eau solide qui est incorporée dans les minéraux. Et en fait, quand ces roches-là rentrent en profondeur, elles vont relâcher cette eau par augmentation de température et de pression, qui sont les conditions de profondeur. Et donc, une fois que cette eau sort de la roche, entre guillemets, elle se retrouve voilà, à l'état liquide, on va dire, en profondeur. Donc on va dire, allez, pour ce que je regarde, entre 50 et 100 km de profondeur, pour donner une idée un petit peu large. Et tout l'enjeu est de savoir eh bien, qu'est-ce qu'elle devient, cette eau, une fois qu'elle est relâchée. Et on se pose ce genre de questions parce qu'on sait qu'il y a de la sismicité qui se passe plus ou moins au même endroit. Ça fait aussi partie des questions qui se posent. Et on suspecte un très fort lien entre ces réactions qui relâchent de l'eau, qu'on appelle des réactions de déshydratation, cette eau, une fois qu'elle est libérée, et tous les processus qui vont conduire à la génération de séismes. Et donc, c'est, voilà, c'est cet ensemble de questions qui vont se poser autour de ces contextes-là.
Donc, cette eau pourrait être à l'origine de tremblements de terre, si je résume ce que vous dites.
Voilà, c'est ça. Alors, des tremblements de terre relativement profonds, donc qui ne vont pas tous impacter la surface, bien qu'il y ait certaines régions du monde qui soient, notamment toute la ceinture autour du Pacifique, hein, qui a quand même eu des épisodes sismiques en lien avec ce genre de choses. Ça s'intègre aussi dans toute l'étude qu'il va y avoir entre ce qu'on va appeler les interactions entre les fluides et les roches. Donc ça, on peut intégrer donc les processus de profondeur dont je vous ai un petit peu parlé. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font en surface. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Notamment l'une des sources d'énergie dont on entend de plus en plus parler, enfin en tout cas je l'espère, c'est la géothermie, et notamment la géothermie profonde. En fait, ça consiste simplement à injecter de l'eau dans les roches en profondeur qui vont être donc chaudes. En circulant, l'eau va se réchauffer, elle va prendre la chaleur des roches, et ensuite on la fait remonter et on peut récupérer cette énergie là. Et donc, en fait, dans ce processus, eh bien, on va faire interagir de l'eau avec des roches, et on sait que ça ne va pas simplement être une récupération de chaleur, mais qu'il va aussi se passer des échanges d'ordre chimique qui vont derrière se traduire en transformation minéralogique. Enfin, il va y avoir pas mal de processus différents, donc là, notamment d'un point de vue de la chimie, mais aussi d'un point de vue de la mécanique, parce que cette eau est sous pression en profondeur. Et donc, il va y avoir potentiellement de la déformation, de la fracturation des roches en profondeur. Et ces processus-là sont potentiellement sismogéniques. Donc, ça fait aussi partie des deux problématiques beaucoup plus concrètes dans ce champ-là de la géologie, notamment.
Très, très bien. Très intéressant pour nos auditeurs, n'est-ce pas, Bernard?
Ah, oui, tout à fait, oui.
On en apprend beaucoup sur...
Voilà, on joue de la musique ensemble, mais on ne parle pas beaucoup d'études, donc ça me fait plaisir d'entendre tout ce qu'il fait. Voilà, bravo Mario.
Voilà, merci. Alors Mario, dans cette partie sur votre thèse, une autre question. Pour combien d'années êtes-vous engagé pour la thèse et quelles sont les différentes étapes du cursus? Ça se passe comment? Si demain je veux démarrer une thèse, comment ça se passe?
Alors votre première question, la durée de la thèse, le contrat doctoral, il est très majoritairement en France, c'est 3 ans hein, en règle générale. Moi c'est une bourse, c'est de l'argent public, c'est une bourse ministérielle, donc ça c'est des contrats de 3 ans. Ça veut dire que je suis payé pour faire ma thèse pendant 3 ans. Bon, ça n'engage pas forcément à ce qu'elle soit bouclée au bout des 3 ans. Normalement maintenant les thèses sont aussi... faite pour qu'elle dure 3 ans et que voilà, la durée de la recherche, on va dire, corresponde aux durées à la durée du financement. Donc on va dire voilà, qu'en règle générale, c'est 3 ans. Dans d'autres pays, notamment en Europe, c'est plutôt 4 ans. Mm-hmm. En fait, ça va dépendre.
Il me semble qu'en France, autrefois, la thèse était plutôt même 5 ans. Donc j'observe que le temps a diminué en fait. Hein.
Alors par rapport au financement, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'encore dans certains domaines de recherche en France, la...
En fait, dans les sciences humaines et sociales, voilà. Le temps est sans doute plus long.
Voilà. Je voulais y venir. Et effectivement, oui, j'ai des amis qui font des thèses d'archéologie ou d'histoire.
Voilà.
Et ouais, la durée des thèses est généralement supérieure à la durée du financement, ce qui pose un petit problème.
Oui.
Mais c'est des choses qui évoluent aussi et c'est en train de s'équilibrer. Mais effectivement, en fonction des domaines, notamment, la durée de la thèse peut varier.
Et alors, les différentes étapes sur ces 3 ans?
Les différentes étapes, ça va être d'un premier temps de s'immerger, on va dire, dans son sujet, de vraiment comprendre le contexte et les problématiques, les tenants et les aboutissants, on pourrait dire. Et ensuite, ça va être d'établir la manière dont on va vouloir répondre aux questions qui sont posées par le sujet, en fonction du regard qu'on veut apporter sur ces problématiques. Il y a différents axes qui peuvent être envisagés pour répondre à ces questions. Et ensuite, ben voilà, ça va être tout le processus de mise en place de protocoles expérimentaux, par exemple, analytiques, de prélèvement d'échantillons. Dans mon cas, ça va être aussi de la modélisation, donc de préparation des modèles, des systèmes d'équations à résoudre, la manière dont on va les résoudre, etc. Et ensuite, donc, la collecte des résultats divers et variés en fonction de la méthode, bien évidemment, et tout ce qu'on va pouvoir tirer de ces résultats, des choses dont on va être à peu près sûr, des choses qui nous laissent supposer
que...
d'autres interprétations, mais dont on peut être moins sûr. Donc voilà, tout ça, il va falloir le pondérer. Et puis, également le mettre en parallèle avec des recherches qui auront déjà été faites par d'autres personnes. Donc il y a toute une grosse étape de bibliographie à faire. Donc se renseigner, voilà, qu'ont fait les autres, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils en pensent, et au final, est-ce que nous, ce qu'on observe et ce qu'on pense... à partir de ces observations, est-ce que ça concorde ou pas, uniquement sur certains points, voilà. Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre tout ça dans le tissu commun qui va être, eh bien voilà, la connaissance scientifique.
Oui, oui, vous inspirez, en fait, vous vous nourrissez, si je puis dire, de travaux réalisés par des chercheurs autrefois pour alimenter votre propre thèse et votre mission de doctorant.
Oui, exactement. En fait, il y a un volet qui est extrêmement important en recherche, c'est la communication. Mmh. Parce que peut-être qu'on peut avoir cette... Enfin, en tout cas, moi, je l'avais quand j'étais plus petit, cette image un petit peu caricaturée du chercheur qui va être un petit peu le savant fou qui travaille tout seul dans son bureau, dans les sous-sols d'université. Bon, dans les sous-sols d'université, ça, c'est pas vraiment une caricature.
Alors, avec des grands cheveux gris, des petites lunettes.
Voilà, par exemple, la caricature de... du visage d'Albert Einstein là qu'on voit des fois traîner. Cette image du chercheur solitaire qui ne travaille sur des trucs qui n'intéressent personne à part lui, et ça c'est quelque chose qui est, je sais pas si elle a vraiment existé, en tout cas elle est révolue si elle a existé un jour. Une grande partie du métier, ça consiste à communiquer sur ce qu'on fait au grand public, parce qu'on travaille quand même majoritairement avec de l'argent public, donc on doit bien leur rendre ça, mais aussi et surtout au sein de la communauté, parce que de faire des découvertes incroyables, c'est génial, mais si on ne les communique pas, ça ne sert à rien. Donc, une grosse partie de cette communication, elle passe par la publication scientifique.
Alors, on en parlera un petit peu plus tard.
On en parlera un petit peu plus tard, effectivement.
Mais vous avez raison néanmoins de souligner le fait que les sociétés savantes d'autrefois, c'était un petit peu la recherche de l'entre-soi, en fait, alors qu'aujourd'hui, la recherche est beaucoup plus ouverte sur le monde. Et c'est tout à fait ce que vous venez de décrire.
En tout cas, il y a une très forte volonté, effectivement, de la communauté. Et on ne peut pas faire autrement, en tout cas. On ne peut pas faire autrement, et c'est bien normal, d'ailleurs. Il faut communiquer ce qu'on fait, et il faut que ça se sache si on veut pouvoir avancer de manière efficace et intelligente.
Alors, nous allons marquer une première pause musicale, après ces belles explications sur notre monde enfoui, on va dire, hein. Fait de magma, de roche et d'eau, si j'ai bien compris. Entre autres, qu'avez-vous choisi comme morceau et pourquoi?
Alors, j'ai choisi la montagne de Jean Ferrat. Bon, pour faire un petit clin d'œil à ce que je viens de raconter sur, sur la géologie, mais aussi parce que c'est une musique que j'aime beaucoup la chanson française à texte. Et la mélodie est très belle, les paroles sont très belles. C'est une musique qui me rappelle pas mal de choses, et notamment les vacances, que ce soit avec mes parents ou aussi les camps de terrain que j'ai pu faire pendant mes études avec mes potes, où voilà, des fois cette musique apparaissait quand on se retrouve à faire du terrain paumé dans les Alpes ou dans les Pyrénées, que la montagne de Jean Ferrat arrive, bon, même si lui il parle pas vraiment de ces deux chaînes de montagnes-là. Voilà, ça fait toujours un petit écho à ces souvenirs-là.
Très bien. Et donc, la montagne est belle.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Mario Sotreau-Jouvenceau, vous êtes donc doctorant. Et le passage obligé dans un doctorat est la publication d'articles dans des revues scientifiques qui sont aussi appelées des revues qualifiantes. Donc les articles sont contrôlés par un comité de lecture. Est-ce que vous avez déjà commencé à rédiger et quels sont ou quel est votre sujet d'écriture actuellement ?
Alors effectivement, je suis en cours de ce processus de rédaction d'articles scientifiques. C'est une étape qui est obligatoire dans un parcours doctoral, puisque pour soutenir notre thèse, on est obligé de justifier un article soumis et accepté par un journal à comité de lecture. Et donc, pour l'instant, j'en suis en parallèle, je suis en train d'acquérir mes derniers résultats. Donc, je ne peux pas encore l'écrire en totalité pour l'instant, mais c'est un processus qui peut se faire en plusieurs étapes. Donc là, je suis en train de rédiger la méthodologie que j'ai employée. Et on verra dans, dans quelques semaines pour rédiger la partie sur les résultats. Et ensuite, il va falloir, avant de rédiger la partie qui sera plus la discussion, pour, voilà, on va dire traditionnellement, la structure d'un article scientifique, ça va être une introduction avec son contexte et la problématique qui est rattachée. Ensuite, la méthode employée pour répondre à sa problématique, les résultats qu'on a obtenus issus de cette méthode. Et ensuite, une discussion sur les résultats, avec notamment les parallèles dont on parlait juste avant, avec voilà, ce qu'aurait pu en dire et en trouver d'autres travaux, d'autres études.
Oui, vous répondez en quelque sorte à une question de départ. Il y a la problématique, vient ensuite la question de départ, et puis ben, la rédaction avec analyse des données, enfin tout ce que vous aurez pu faire qui alimentera votre article.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a des articles qui sont vraiment faits pour répondre à une question. Il y en a d'autres qui sont plutôt des articles de méthode où on aura développé une méthode, une méthode analytique, on aura mis en place un système, une machine par exemple pour prendre des données, où voilà, les articles vont plus servir à décrire une méthode.
Vous serez dans ce cas-là du coup.
Il y aura une grosse partie méthode, effectivement, dans ce papier. Il y aura une grosse partie méthode, effectivement. Ouais.
Très bien. Une fois votre thèse réussie, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, j'ose même d'ailleurs être invité à la soutenance, cher Mario, parce
que c'est une invitation.
On se connaît un petit peu. Que ferez-vous avec votre thèse en poche? Quels sont les débouchés possibles? Et vous, j'allais dire, que voulez-vous faire de votre thèse plus tard?
Alors, les débouchés possibles, ils sont divers et variés, puisque avoir un doctorat n'oblige pas à continuer dans la recherche. Voilà, il y a des entreprises, notamment dans des services de recherche et développement, ce qu'on appelle la R&D, qui recherchent des docteurs, puisque voilà, ils considèrent que c'est au-delà vraiment de notre sujet au sens strict, qui est quand même assez, on va dire, focalisé sur des questions en particulier, mais au-delà vraiment d'avoir répondu à ces questions-là, on estime qu'on a aussi acquis des compétences, voilà, d'autonomie dans notre travail, de mise en place de procédures pour répondre à des questions, voilà, de devoir se dépatouiller un petit peu par nous-mêmes, on va dire. Donc ça, c'est des compétences qui sont recherchées par certaines boîtes dans des entreprises privées, par exemple. Après, la plupart des gens veulent quand même continuer dans la recherche, et notamment dans la recherche publique. Et donc, c'est viser des postes au départ de chercheurs non permanents, on va dire. Donc, ça va être soit des postes d'enseignants-chercheurs en CDD, ce qu'on appelle des ATER, des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, ou alors des post-docs, donc des post-doctorats, où là, on va faire principalement de la recherche quand même. Et après avoir passé quelques années à enchaîner ces contrats temporaires, à se faire notre propre expérience, à développer notre propre recherche, parce qu'en doctorat, on est quand même, on travaille très fortement avec notre direction de thèse. On a des collaborations extérieures également, mais on est quand même sous la direction de nos encadrants, ce qui est bien normal parce qu'on est encore nous-mêmes en formation, on est des très jeunes chercheurs, on apprend le métier de la recherche, donc on a besoin d'être encadré. Mais l'objectif de ces contrats, c'est de s'émanciper encore plus et de développer vraiment notre propre recherche pour ensuite postuler à des postes permanents d'enseignant-chercheur, donc au départ de maître de conférence ou...
professeur d'université aussi.
Alors ça vient après, c'est une fois qu'on est maître de conférence, okay. Après avoir encore passé quelques années à développer encore plus notre recherche, on peut passer quelque chose qui n'existe pas vraiment ailleurs qu'en France, qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches, l'HDR, qui est le plus haut diplôme universitaire, où voilà, donc on va présenter un petit peu l'intégralité de la recherche qu'on a pu faire depuis notre doctorat. Et une fois cette habilitation en poche, on peut postuler sur les postes de professeur des universités, effectivement, oui.
D'accord. Donc, en fait, ici dans ce studio, vous êtes entouré d'un ancien professeur en technologie à qui je vais donner la parole dans quelques instants, un professeur documentaliste, votre serviteur. Vous voulez vraiment vous orienter vers l'enseignement et la recherche, combiner les deux, c'est votre souhait? Je reformule ma question, du coup. C'est l'enseignement et la recherche votre vœu?
Oui, c'est vraiment les deux qui me plairaient de faire. J'ai la chance, en étant en thèse, d'avoir fait un petit peu d'enseignement et de continuer à en faire un petit peu. Et c'est vraiment une activité qui me plaît. Ce contact avec les étudiants, voilà, d'avoir de transmission, on va
La
dire.
transmission, voilà.
Exactement.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est vraiment stimulant. Et à bien y réfléchir, les étudiants, c'est aussi le vivier des futurs chercheurs. Donc, moi-même, je suis passé par là et c'est quand j'étais en étudiant que j'ai construit un petit peu ce projet d'avenir-là. Donc, c'est aussi être en contact avec ce vivier-là, voir comment il évolue, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs, voilà, les points communs, les différences qu'on va avoir, comment construire un avenir avec eux en tant que futurs collègues potentiellement. Ouais, c'est une vision d'avenir qui me
Qui
plaît
vous plaît
beaucoup.
bien.
Ouais, tout à fait.
Très bien. Cher
Mais
Mario, je vous remercie en tout cas pour toutes ces explications qui montrent votre parfaite implication dans ce que vous faites, ça on n'en doutait pas une seconde, mais qui aurait pu en douter que dans une même journée, vous soyez capable de soutenir une première année de thèse l'après-midi et d'être sur scène le soir avec Marc Audet. Et je lance un petit clin d'œil à Marc Audet qui a été mon tout premier invité. Ce formidable chanteur que j'ai eu le plaisir, voilà, de recevoir dans ce studio. Je le salue au passage, s'il nous écoute. Alors, Mario nous a tendu une perche en parlant d'enseignement et de transmission. Rebonsoir, Bernard.
bonsoir encore.
Eu égard à votre passé professionnel, une question me brûle les lèvres. Quel élève étiez-vous à l'école, Bernard?
Alors, à l'école primaire, j'étais un élève plutôt bon, pas excellent, mais correct, quoi. Plutôt bavard, ce qui veut dire que notre interview risque de durer un petit peu. Et par la suite, au collège, je me suis un petit peu spécialisé, ou du moins j'ai été meilleur dans les matières scientifiques.
D'accord.
Mathématiques, sciences qui me plaisaient beaucoup et entre autres la science et vie de la Terre qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. J'aimais beaucoup les animaux, la nature et c'est vrai que dès le collège j'ai essayé de développer un peu ce côté-là. On avait un enseignant qui avait compris que faire des activités extrascolaires c'était aussi attirer les élèves vers les sciences et donc on avait un club nature et donc on se déplaçait et on allait faire des sorties, observer les oiseaux, etc., etc. Donc voilà.
Très bien, je suis entouré de deux scientifiques hein, ce soir. Hein, voilà.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a décidé un jour d'entrer dans l'éducation nationale, Bernard, et de devenir enseignant? Pourquoi vous avez choisi la technologie? Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir enseignant un jour? Et puis ensuite, pourquoi avez-vous choisi la technologie?
C'est un petit peu le hasard du parcours de vie, hein. Quand j'avais 17 ans, un ami m'a demandé si je voulais bien l'aider à faire une colonie de vacances. Donc lui en était le directeur et j'ai choisi enfin, je suis rentré comme animateur. Et je me suis rendu compte que m'occuper des enfants, des pré-ados, c'était quelque chose de vraiment passionnant et de très, très bien. Ça m'a beaucoup plu. Donc une des pistes de futur métier, ça avait été effectivement de devenir enseignant. Il n'y avait pas que celle-là. Comme tout ce qui était biologie m'intéressait beaucoup, je pensais aussi éventuellement faire vétérinaire. Et arrivé au bac, je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'années d'études à faire depuis la sixième jusqu'au bac pour devenir vétérinaire. Et j'avais un petit peu hâte d'être dans le monde du travail, donc j'ai choisi enseignant. Et pour répondre à votre deuxième question, en terminale, je continuais de faire des travaux manuels éducatifs parce que c'était l'ancêtre de la technologie à l'époque. Et la professeure de travaux manuels m'a dit, mais si vous ne savez pas quoi faire, vous devriez essayer de faire professeur de travaux manuels. On cherche
Oui.
beaucoup d'enseignants dans cette discipline et surtout des hommes. Donc, je me suis renseigné et j'ai suivi le cursus pour devenir professeur de travaux manuels. Voilà.
Alors, vous avez connu l'éducation manuelle et technique,
Et oui,
évidemment.
et oui. Une fois que j'ai eu passé mon CAPES de travaux manuels, parce que j'ai eu un CAPES de travaux manuels, la première année d'enseignement, on m'a dit, ben non, vous faites de l'EMT, de l'éducation manuelle et technique.
L'ancêtre de la
Et oui.
technologie. Voilà. Et vous vous êtes très vite passionné pour ce travail, pour
Ben écoutez,
cette discipline-là?
oui, c'est une discipline qui n'a pas cessé d'évoluer. On est passé des travaux manuels à l'EMT, de l'EMT à la technologie. J'ai touché à tous les domaines. Je ne peux pas dire que je suis excellent dans un des domaines, mais je m'y connais suffisamment pour faire pas mal de choses. Et l'évolution me semblait tout à fait cohérente dans la mesure où l'artisanat devenait de plus en plus spécialisé. On nous a aussi demandé d'enseigner de plus en plus le côté industriel des choses. Et donc, je trouvais que ça suivait bien l'évolution de la société à l'époque. Par la suite, j'ai un peu regretté qu'on ait perdu les activités manuelles qui permettaient aux enfants de vraiment se dépasser, certains qui n'avaient pas d'appétence pour les disciplines théoriques. S'en sortait beaucoup mieux avec les activités manuelles. Bon, ça a été perdu. Je trouve que c'est un petit peu regrettable.
Quels sont vos plus beaux souvenirs d'enseignant, Bernard ?
C'est compliqué, parce que j'ai enseigné pendant 25 ans dans le même collège. J'ai participé à la mise en place de pas mal d'activités extrascolaires, parce que c'est ce qui nous semblait aussi important pour faire le lien entre les différents enfants. Hein. J'enseignais à 500 mètres là derrière, et on avait un public d'enfants qui venaient vraiment de niveaux sociaux très différents.
Donc on précise, vous enseignez au collège du chapitre
hein? Non, Hériot, le collège Hériot, l'autre collège, Edouard le collège Hériot. Okay. Et on avait un public qui était vraiment un public mixte de beaucoup de niveaux sociaux différents. Et le fait de faire des activités extrascolaires, ça permettait d'unifier les classes et de créer vraiment du lien. Donc on a fait des sorties Varap, on a fait des sorties ski, des sorties en Angleterre, avec à chaque fois des objectifs pédagogiques, mais aussi le bien vivre ensemble. Et mes meilleurs souvenirs, ça a quand même été les séjours de ski, où on louait un chalet, où on faisait tout par nous-mêmes, on vivait en autarcie. Et en tant qu'ancien professeur de trois manuels, j'étais le cuisinier. Et donc j'amenais les enfants à préparer les repas. Donc on faisait des choses extrêmement simples. Mais je me suis rendu compte que des élèves n'avaient jamais vu un balai, ne savaient pas comment on pouvait préparer une sauce de salade, ou alors ils en faisaient une pour quatre, et on était 50, donc il fallait remettre un peu. Mais c'était vraiment passionnant de travailler avec eux, ils étaient vraiment très, très, très moteurs et très, très contents de venir avec nous.
Si je reformule ce que vous dites, en fait, ce qui vous a le plus passionné quelque part, c'est plutôt l'enseignement hors les murs.
Les deux m'ont passionné, mais les meilleurs moments, je crois que je les ai vécus en enseignement hors les murs, où on créait vraiment on fédérait les groupes et où les élèves devenaient vraiment attentifs, sympas et avoir envie de faire des choses. Ils avaient des projets et je crois que c'est très très important d'amener les élèves à se projeter et avoir un projet, même à court terme. Voilà.
Et puis c'était pour eux la meilleure façon de se dépasser aussi.
Ah ben, tout à fait, tout à fait. Oui. Et au retour, ce qui est intéressant, c'est qu'au retour, dans l'établissement, ils gardaient cette étincelle. Mm. Et donc, on a réussi à réveiller, entre guillemets, enfin, j'exagère un peu, mais on a eu des élèves qui se sont un petit peu changés au travers des différentes sorties qu'on a fait avec eux.
Quel est le pire moment de vos années d'enseignement ? Je vous pose la question, Bernard.
Alors, c'est un peu compliqué, mais disons que quand on est enseignant dans un collège, le côté administratif, les chefs d'établissement ont un rôle et une puissance importante dans le développement ou le soutien aux activités extrascolaires, ou au contraire, dans le blocage des activités extrascolaires. Donc, j'ai vécu un pire moment avec une chef d'établissement qui a cassé toute la dynamique qui avait été montée par l'ensemble de l'équipe, hein, je ne parle pas que de moi, mais l'ensemble de l'équipe des enseignants, on s'est retrouvé très vite à ne plus pouvoir faire de sortie, quelle qu'elle soit. Okay. Donc là, ça fait une marque dans la vie de l'établissement. Voilà.
C'est difficile, surtout quand on est motivé, passionné par ce que l'on fait et qu'on a envie justement de transmettre autrement.
Tout à fait. Transmettre autrement et transmettre en parallèle. C'est pas parce qu'on sort qu'on n'est pas aussi enseignant dans sa classe, oui. Mais ça complète et ça remotive aussi pas mal les enfants. Voilà. Et d'ailleurs, Mario, dans ce que tu nous as dit, je te conseille de garder ta motivation, parce que arriver enseignant, il y a des fois des... On a une marge d'escalier qui fait qu'on a rêvé un petit peu la relation et on se rend compte qu'elle n'est pas toujours aussi évidente.
Oui, bien sûr qu'elle n'est pas toujours aussi évidente. Oui. Moi, je suis passionné en me levant chaque samedi matin, là, depuis quelques semaines, à 4 heures du matin pour aller enseigner à l'Université Lyon 3. Mais comme il s'agit d'un cours magistral, je me rends compte que je n'ai pas beaucoup d'étudiants en face de moi et c'est un petit peu ce qui me désole. Mais je ne perds pas, j'oserais dire, la foi. Alors. Donc c'est ça qui est comme super important dans l'enseignement, c'est de toujours continuer à y croire. L'éducation nationale aujourd'hui, Bernard, quel regard portez-vous sur l'éducation nationale, sur les jeunes, les enfants ? Allez, on parle à cœur ouvert.
Oui, oui, non, mais pas de problème. Non, alors, ma difficulté, c'est que j'ai quitté le collège, moi, il y a 20 ans, puisque dans mon parcours, je suis devenu formateur d'enseignants, accompagnateur d'enseignants, et donc j'avais une distance par rapport aux élèves, donc là, j'ai un peu perdu le lien. Par rapport à l'éducation nationale, par contre, moi, j'ai toujours suivi un petit peu ce qui se passait. Moi, le gros reproche que je ferais à cette entité, c'est le manque de vision à long terme. On a régulièrement des réformes, régulièrement des changements. On n'a pas le temps de les mettre en place auprès des classes, auprès des élèves. Que le nouveau ministre arrive, la nouvelle réforme arrive et on repart à zéro sur d'autres directions, d'autres manières de faire. L'enseignement, c'est un temps long. Et la formation des enseignants, c'est aussi un temps très long. Et oui, c'est très difficile de faire changer un enseignant. Et ces réformes qui arrivent les unes après les autres, finalement, font un peu comme des vagues. Ça modifie pas forcément le littoral. Et on se désespère de ne pas savoir ce qu'on a à faire. Quoi. Voilà. Moi, il y a ce côté-là de l'éducation nationale qui me gênait un peu.
Oui, c'est le côté quelque peu instable.
Tout à fait, tout à fait. Instable et où on ne comprend pas où on va. Il y a eu quand même quelques réformes où on ne voyait pas du tout où on allait et c'est difficile de les mettre en place. Et de plus, ça s'appuie sur des expérimentations qui sont faites dans des zones géographiques, des organisations très précises et qui fonctionnent bien parce qu'il y a l'équipe d'enseignants, parce qu'il y a la localité qui aide, etc. Et on transpose ça sur l'ensemble de la France, en disant... Ça a fonctionné à l'endroit X, ça fonctionnera sur l'ensemble de la France. Et l'enseignement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail de long terme sur l'environnement local. Quoi.
Oui, c'est un travail de terrain.
Ah bah oui, tout à fait.
Et qui va changer selon les publics auxquels on a affaire aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Quel regard vous portez sur la jeunesse aujourd'hui ?
Je croise encore quelques anciens collègues qui m'envient d'être à la retraite. Et qui disent combien la tâche est difficile à l'heure actuelle, parce qu'on a perdu cette dynamique d'essayer de créer des ensembles, enfin, de rendre homogène une classe, pas en termes de savoir, mais en termes de vie et de sociabilisation. On se rend compte qu'on a des... Enfin, dans ce que mes collègues me racontent, ils ont de plus en plus de mal avec les enfants qui sont très individualistes et qui ont du mal à vivre des projets communs, quoi.
Ils ne sont que dans le reflet de la société.
Tout à fait. Oui. Et je crois que si j'étais encore enseignant, j'aurais beaucoup de mal, parce que moi, c'était vraiment cette dynamique de vie de classe qui me portait et qui m'emmenait. Quoi.
L'esprit voilà. Collectif.
Tout à fait.
Très, très bien. Eh bien, nous allons marquer une seconde pause musicale, et c'est vous qui l'avez choisi, Bernard, cette fois-ci. Donc, vous avez choisi Feu Chatterton, 1000 vagues. On parlait des vagues
à
l'école. Mais oui. Pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Alors, j'écoute beaucoup de musique, hein, et pas que de la musique traditionnelle. Et c'est vrai que c'est un morceau que j'ai entendu à la radio et qui m'a tout de suite beaucoup ému. Je suis à un âge où je vois partir pas mal d'amis, d'anciens amis, de la famille. Et donc, je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais c'est une chanson qui parle d'un producteur qui est décédé au moment où le groupe faisait son disque. Et d'après ce qu'ils en disent, ils ont créé cette chanson très très rapidement, et je trouve qu'elle est belle aussi par ce côté immédiat.
Très bien, nous écoutons Feu Chatterton.
Quelques jours à peine, difficile de croire, que tu n'es plus là. Un soir de déveine, foutu hasard, enfin, c'est comme ça. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Je relis à peine ton dernier message qui dit à demain. Demain éternel, ton nouveau rivage, si proche et si loin. La vie est soudaine, surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues nous traversent, mille vagues, on ne connaît pas l'après. Je fais les tiroirs de ma mémoire pour te trouver, toi. Ce dont je me rappelle, maintenant qu'il fait noir, je le garde pour moi. Je te garde pour moi. Je te garde.
De la première partie de ce nouvel épisode de l'émission J'ai rendez-vous avec vous, présenté par Frédéric Gillot, qui recevait, je vous le rappelle, Mario Sossereau-Jouvenceau et Bernard Gugger. Rendez-vous mardi prochain à 20h pour la deuxième partie. Vous aurez la chance d'entendre les deux compères jouer de l'accordéon pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. Restez bien à l'écoute donc du 97.1 Radio Shalom Bourgogne.